Mais en qu'on jase, que vous allez voir qu'il y en a plein de choses qui se produisent aujourd'hui. Mais je commence par la météo. On est présentement à 24 degrés. Des averses prévues en fin de journée. 14 degrés demain, alternant soleil et nuages. 11 degrés ensoleillés jeudi. 14 degrés ensoleillés vendredi. Mathias, il y avait des petits problèmes encore sur la circulation, notamment avec les incendies.
Oui, juste vous dire que présentement, Henri IV, direction sud, il y a un accident à hauteur de chemin Sainte-Foy, voie de droite et voie de gauche de bloqué. Donc, on a un ralentissement qui remonte jusqu'à rue Einstein présentement sur Henri IV. Également, on aurait un incendie sur Jean Marchand. Rue Jean-Marchand dans le secteur industriel à Québec. Un gros incendie qui aurait lieu, si vous avez des informations, 88-971-1021.
Daniel Moisan qui se retire de la politique, c'est un candidat pour Leadership Québec. Sam Hamad qui a mentionné, c'est avec une grande tristesse que je reçois la décision de Daniel Moisan de quitter la campagne. Le climat toxique qu'il décrit a eu raison de son engagement politique. Je vous souhaite de retrouver son quotidien avec sérénité. Merci pour tout, Daniel. Donc, Daniel Moisan qui quitte en raison du climat toxique sur les médias sociaux.
Oui, c'était le représentant pour Leadership Québec dans Montcalm, Saint-Sacrement. Ce qu'il a dit, en gros, c'est le climat toxique, l'ambiance malsaine et malveillante. Aussi, il y a eu une diffusion d'infomènes dans lequel on aurait ri de lui, qui ne lui aurait pas plu. Il a aussi assisté à de la violence physique lors de poses de panneaux au cours de la campagne qu'il n'a pas aimé. De son côté, on a dit qu'une part du blâme revenait à Bruno Marchand qui aurait alimenté la haine durant ses 4 années de mandat. Et on a tenu à préciser que son soutien, il a tenu à réaffirmer son soutien à l'équipe Sam Hamad.
J'aime ça, on s'est brossé la tête en même temps, Antonine. Bruno Marchand qui suscite la haine, c'est peut-être les gens qui sont un petit peu trop haineux. Et ça, tiens, je vais passer la poc à Rémi Villemur qui est à Montréal. Rémi, tu peux être en désaccord avec le fait qu'un maire veut faire le tramway, mais là, de là à dire que tu vas tenir des propos violents et haineux, à un moment donné, il y a une différence à faire entre je suis pas d'accord avec son idée puis de la façon que j'agis. Es-tu d'accord avec moi, Antonine?
Mais, je regrette, là, mais quand on est maire de Québec, quand on est maire de Montréal, quand on est député de Québec solidaire dans Sherbrooke, comme Christine Labrie, je dis pas qu'on a accepté en signant quelque part dans un contrat, dans les conditions à la toute fin, qu'on allait recevoir des insultes comme ça. Je ne dis pas ça, mais je pense qu'il faut accepter un peu la réalité. La réalité, c'est pas nous qui... Hein, c'est pas une personne qui peut la changer vraiment. Il y a une réalité mondiale. En ce moment, les gens sont en beau joie le vert. Et de fermer ces réseaux sociaux, de dire « je vais poursuivre des gens qui ont des commentaires haineux », c'est ouvrir la porte à quelque chose que je trouve un peu louche, un peu dangereux. Les gens sont en maudit, OK, d'accord. La loi prévoit des sanctions lorsque vous menacez quelqu'un. Mais là, j'entendais M. Marchand dire la calomnie. Mais la calomnie, c'est le mensonge. Parfois, on n'a pas la même vérité que quelqu'un, OK? L'eau est mouillée, d'accord. Là, dire que l'eau n'est pas mouillée, c'est un mensonge. Mais ne pas être d'accord avec quelqu'un, est-ce que c'est de la calomnie? Trouver que quelqu'un est pas bon, est-ce que c'est de la calomnie? J'essaie juste de...
Ouais, par contre, moi, ce que je voulais dire, puis je précise ma pensée, c'est que Daniel Moisan dit, par ses décisions, Bruno Marchand attise la haine et la colère, et là, ça se répartit sur l'ensemble de la politique. Mais normalement, tu peux débattre d'une idée sans être en colère.
Tout à fait, tout à fait. Non, ça, c'est évidemment exagéré. Bruno Marchand a une vision du monde. Il n'attise pas la colère parce qu'il défend sa vision du monde. Il a été élu, les gens ont voté pour lui. Donc, effectivement, ce commentaire-là est de trop.
De toute façon, on dirait que des fois, quand on reçoit des commentaires qu'on n'aime pas, que le climat n'est pas bon, ben c'est comme si on essayait de se trouver un coupable. Je pense que c'est ça, là, la réaction de M. Moisan, c'est qu'il dit « Ah, ben, ça doit être la faute à Bruno Marchand, finalement. » Et je vais profiter aussi du moment où je me retire de la course pour y lancer une flèche qui me semble complètement inutile, finalement. Puis je ne suis pas sûre que c'est si bon pour le climat non plus, la discussion.
En effet. Revenons à nos moutons et à Ruba Gazal. L'heure est grave et je vous lis un texto de Stéphane qui dit « Cette porte-parole de Québec solidaire n'a plus de crédibilité. Elle dénonce le climat toxique, mais elle a même décrit le PQ de parti de droite et les conservateurs d'extrême droite lors de la dernière élection partielle dans Arthabasca. Elle contribue directement à nourrir le climat toxique et fait partie du problème. » Honnêtement, c'est une opinion de Stéphane qui est très intéressante. Rémi, Antonine, vous en pensez quoi de Ruba Gazal et de l'heure est grave que les progressistes sont maintenant mis à l'abattoir de la place publique?
Ben, les 48 dernières heures ont été assez révélatrices, je pense, du type de leadership qui est capable d'exprimer Ruba Gazal. On va prendre la vidéo pour commencer, mais je vais vous emmener ailleurs après parce qu'elle a écrit un tweet ce matin. Mm-hmm. Et ça aussi, je trouve que c'est assez révélateur. Mais prenons la vidéo. Le ton, c'est celui d'une victime. Donc, Québec solidaire a vraiment besoin de se défaire de la victimisation parce que ça, d'un point de vue strictement objectif, j'ai envie de dire d'un point de vue scientifique, ça n'inspire pas le pouvoir. Okay? Et ça n'inspire pas la confiance de la population, un parti qui fait son pain et son beurre sur la victimisation constamment. Hein? Quand on choisit notre premier ministre, quand on choisit le ouais. chef d'un parti, quand on choisit quelqu'un en qui on a confiance, on veut quelqu'un qui est capable de dévier de ça, quelqu'un qui est capable de nommer le réel.
Éric Duhaime est un bel exemple à ça. Il a perdu dans Arthabasca en se positionnant en victime de « Ah, oh, il y en a 500 000 qui ont voté pour moi, mais je parle à l'Assemblée nationale ».
Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a perdu. Il a perdu parce qu'il n'a pas gagné Victoriaville. Puis dans le roman d'Arthabasca, il y avait deux électorats très distincts. Mais tu sais, je pense que tu ne peux pas constamment
on n'a pas besoin
à la carte de la victimisation. Donc, quand tu t'installes à une grande table brune comme ça, avec un drapeau du Québec, puis avec une caméra qui te fixe, puis tu as une posture sobre, on appelle ça une adresse à la nation. OK? Donc, si tu profites de ce contexte-là, de cet environnement-là qui est lourd de sens sur le plan symbolique pour prendre une posture qui est tout sauf celle d'une personne qui est capable d'assumer le pouvoir, tu rates ton coup complètement.
Puis pire ça, que c'est... ça, Rémi, c'est que moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle fait une adresse à la nation, puis elle parle d'elle, elle parle de QS. Bonjour, je veux vous parler de QS. Parce que quand elle dit les progressistes, en passant, pour elle, sa définition de progressiste, je crois, c'est des gens qui votent pour Québec solidaire
c'est
et qui sont chez
bon
Québec
point.
Solidaire. Puis je pense qu'elle mélange aussi progressiste et woke. Mais ça, c'est un autre débat. Puis elle utilise sa tribune pour dire QS ceci, QS cela, les progressistes. Là, c'est un synonyme là, pour elle. Elle n'a pas parlé des gens. Elle a parlé de son parti qui est à 6 % dans les sondages. Et je trouvais tellement que ça ratait la cible. Je vais te dire, Rémi, moi, je vais te donner mon impression de cette vidéo-là. Sur le coup, je pensais que c'était une parodie parce que QS fait juste des niaiseries sur Instagram à peu près. Là. C'est toujours des concepts là, qu'on voit sur TikTok, des trends de TikTok, puis on s'amuse. Donc, je pensais que ça allait être une parodie. Puis là, je me rends compte que non, c'est une adresse à la nation dans laquelle elle dit on accuse les progressistes de tous les maux alors qu'on n'a jamais été au pouvoir. La gauche n'a jamais été au pouvoir. Fait que la gauche, pour elle, évidemment, c'est juste QS. Et elle se vante finalement de jamais avoir réussi, que son parti n'est pas capable de gagner le pouvoir. Et j'ai tellement trouvé ça bizarre comme vidéo, pour être honnête.
Ben, écoute, tu lis dans mes pensées parce que c'est là que je m'en allais. Elle parle aux progressistes alors qu'elle devrait parler aux Québécois. Le parti est à 6 % dans les sondages, puis, tu sais, oui, il est à 6 % parce que certains progressistes qui étaient à QS sont allés au Parti québécois ou au Parti libéral, mais ultimement, Québec solidaire se présente aux élections générales au Québec, veut gagner le pouvoir au Québec, donc tu ne peux pas profiter, tu ne peux pas t'offrir cet environnement-là, ce décor-là qui nous rappelle l'adresse à la nation pour parler à tes membres. Il y a quelque chose de complètement raté dans l'exécution. Mais ce n'est pas étonnant, parce que Québec solidaire prétend avoir certains projets, prendre le pouvoir, gouverner le Québec, mais en réalité, c'est un groupe qui n'aurait peut-être même pas dû devenir un parti politique. C'est un groupe de personnes, des militants. Et puis c'est correct, militants, moi, en passant, il n'y a pas de mépris dans ce mot-là pour moi. Ce sont des gens qui ont des idées, mais ils n'en arrivent pas à accepter la nécessité et même l'importance du compromis. Donc, aucun compromis n'est possible. Et Ruba Gazal, il faut voir, là, parce que Gabriel Nadeau-Dubois qui s'en va, Gabriel Nadeau-Dubois, c'était celui qui avait en tête peut-être l'idée de professionnaliser ce parti-là.
Vraiment.
De lui faire accepter.
Mais il s'est fait battre par les extrémistes dans ce parti-là, c'est ce qui est arrivé.
Oui, et Ruba Gazal, pour moi, elle est dans la même catégorie qu'une Catherine Dorion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des idées qu'elle n'acceptera jamais de modifier un peu pour prendre le pouvoir, pour se rapprocher du pouvoir. Ce sont des idéologues, ce ne sont pas des politiciens. Après, il y a une autre sortie, si vous voulez qu'on
en parle. Oui, c'est ça. Parle-moi de sa sortie sur X, justement. J'arrivais là, Rémi.
Donc, je vous lis, c'est très court. Elle écrit au sujet du projet de constitution là, qui va être déposé par la CAQ dans quelques heures. « Ni une constitution province écrite par Simon-Jolin Barrette, ni un référendum perdant de Paul Saint-Pierre Plamondon. » Plus que jamais, le Québec a besoin d'une constitution d'un Québec indépendant écrite par et pour le peuple. C'est ce que QS propose depuis sa fondation. Donc là, notons quand même dans l'expression référendum perdant une inspiration tout à fait libre du discours d'Éric Duhaime et de la CAQ. Hein, ça, j'ai jamais entendu quelqu'un à Québec solidaire utiliser l'expression référendum perdant, là. Hein, c'est juste à la CAQ puis au Parti conservateur qu'on utilise ça. Donc là, on envoie une flèche au Parti québécois. Hein, quand on dit aux péquistes, va bien falloir un jour bâtir un camp du oui, va bien falloir un jour vous asseoir avec Québec solidaire, bien là, Rubia-Gazal, elle envoie, sans peut-être en être consciente, le signal qu'elle ne voudra jamais s'asseoir avec le Parti québécois. Elle n'est même pas d'accord avec la stratégie du Parti québécois, hein, pour atteindre l'indépendance. Puis il y a autre chose aussi là-dedans. Je vous ai parlé de Christine Labrie, dont la page Facebook est fermée, dont les réseaux sociaux sont fermés. Finalement, Christine Labrie, elle a reçu des messages qu'elle trouvait désagréables et elle a dit, je ne veux plus du tout entrer en dialogue avec la population québécoise. Si vous voulez parler avec moi, vous allez venir cogner à mon bureau de circonscription, mais sinon, ça se limite à ça, le rapport que j'entretiens avec la population. Québec solidaire se targue d'être le parti le plus proche du peuple. Hein, on ne veut pas un référendum, on veut une constitution écrite par le peuple.
Et là, on vient fermer la porte au peuple.
On vient fermer le tweet de Rubagazal, là, et là, vous avez des gens qui vont me dire que c'est exagérément technique comme analyse. Il est fermé à la. On ne peut pas commenter en dessous du tweet de Rubagazal. C'est souvent ça qui arrive sur Twitter. On ne peut pas commenter là-dessus. Donc, vous êtes si proche du peuple que vos députés ferment leurs réseaux sociaux et que vos publications sur les réseaux sociaux empêchent le dialogue. Mais il y a toute une hypocrisie là-dedans.
Non, je suis tellement d'accord avec toi, Rémi. Je reste sur le dossier de la Constitution, puis je passe la POC à Antonine, justement, avant de t'entendre, Rémi. Méchant bon coup politique, ça, de Simon-Jolin Barrette, parce que là, on lit le tweet de Rubagazal, un référendum perdant. Sol Zanetti sur nos ondes disait CQS, on gouverne, on s'en va pour un référendum. Puis, anyway, on va être dans le camp du oui. La chicane est pognée entre les deux. Puis, pendant ce temps-là, la CAQ se frotte les mains et dit « Ah, on parle pas de nous! »
Simon-Jolin Barrette doit être en train de manger son pop-corn. Parce que quand j'ai vu Simon-Jolin Barrette sortir sur la Constitution, je me suis dit « Ça arrive comme 9 mois trop tard, cette affaire-là.
Ouais. »
Parce que là, la CAQ est aussi, ça va pas très bien.
7 ans trop tard aussi, comme tout ce qui s'est fait à la CAQ.
Ouais, exact. Mais en même temps, ils peuvent pas tout faire dans la même année. C'est bien correct. Puis moi, je fais partie des gens très minoritaires de cette société qui s'intéresse au projet de constitution du
ben,
Québec.
Je lève la main moi aussi.
Bravo. Puis probablement que Rémi, on va voir si Rémi, ça l'intéresse aussi.
Pas mal
mais
certain.
Cela dit, je me disais, ça arrive un peu tard, ça va passer dans le beurre, les gens s'inquiètent pour leur portefeuille. Mais finalement, c'est un bon coup politique parce que le QS et le PQ se chicanent sur la question de la constitution. Donc, c'est très drôle, j'imagine, pour Simon-Jolin Barrette.
Rémi, t'en penses quoi?
Je pense aussi que c'est un bon coup de la CAQ. Je parlais hier avec Pascal Paradis, puis le député de Jean Talon dans la région de Québec, puis lui, il disait, non, on ne fait pas de constitution si on n'est pas un pays. Une constitution, ça passe par le pays. Le piège dans lequel le Parti québécois ne doit pas tomber, c'est celui dans lequel ils sont tombés quand ils se sont opposés à la loi 96. Rappelez-vous, on s'oppose à une loi qui est une bonne loi pour réformer la loi 101 parce qu'elle ne va pas assez loin. Ça envoie un mauvais signal, ça. Il faut être bon joueur. Est-ce que vous êtes nationaliste? Est-ce que vous êtes pour un nationalisme identitaire? Est-ce que vous êtes pour la Constitution? Vous pouvez trouver que le projet n'est pas parfait, mais d'annoncer que vous allez voter contre parce que c'est fait dans une province, moi, je ne suis pas à l'aise avec cette posture-là. Je pense qu'on peut perdre potentiellement des appuis au Parti québécois, des appuis qui sont mous. Hein? Vous vous rappelez, au Parti québécois, il y a beaucoup de gens qui étaient à la CAQ depuis 10 ans, là, puis qui ont traversé au Parti québécois parce qu'on trouve que, hein, on aime mieux le vent de fraîcheur qu'apporte Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais là, quand on voit le parti s'opposer à des bonnes idées, imparfaites, présentées trop tard, faites sans consultation, d'accord. Mais s'opposer à des bonnes idées, c'est se peinturer dans le coin comme un mauvais joueur.
Antonine, je te vois réagir, puis moi, je suis peut-être d'accord comme Rémi. On va conclure là-dessus parce qu'on a Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, en ligne. J'aime beaucoup faire des entrevues avec les femmes en politique, donc ça va être très, très, très intéressant. Restez avec nous. Mais je suis d'accord avec Rémi. À un moment donné, le nationaliste doit être bipartisan, tu sais, doit avoir, justement, doit être transpartisan, je cherchais le bon terme, doit pas nécessairement être approprié à la CAQ, au PQ, à QS.
Mais les gens entendent ça, je pense. Une fois de temps en temps qu'on dise, on est en accord, on l'aurait pas fait exactement comme ça, mais on peut pas être contre un projet de constitution. Mais c'est surtout que très politiquement, là, je trouve que le PQ est tombé dans le panneau.
Ah, clairement!
Quand il y a eu le discours d'ouverture du PM, la réaction du PQ, c'était... Je ne vais pas commenter chaque affaire qu'il y a dans ce discours-là, parce que ce gouvernement-là est fini, il est fichu. Il n'y a plus de légitimité, puis tout ce qu'ils sont en train de dire, ils ne le feront pas de toute façon. Donc, ils n'étaient pas sur le fond des choses. Là, on a décidé, on rentre là-dedans, on donne beaucoup d'oxygène à cette affaire-là de Simon-Jolin Barrette. J'ai l'impression que la pire chose que le PQ aurait pu faire, c'est un peu un haussement d'épaule en disant... T'sais, dans le fond, qu'ils essayent d'aller chercher des points politiques, mais les Québécois le savent que s'ils sont nationalistes, c'est pas à la CAQ que ça se passe. C'est quelque chose comme ça.
Oui, oui, exactement. Donc, Rémi Villemur, un très grand merci une fois de plus pour ta participation à l'émission. On se reparle le jeudi parce que tu es avec nous à chaque mardi et jeudi. À chaque fois, tu apportes des points de vue très, très, très intéressants. Merci, mon ami.
Bye-bye à vous deux.
Hey, salut, Anthony.